Bonsoir, bienvenue dans cette émission Tribune de la Presse qui vous propose les trois thèmes, à savoir l'opposition institutionnelle s'oppose à toute initiative tendant à la révision de certains articles de la Constitution, notamment l'article 220 relatif au mandat du chef de l'État. Ensuite, province orientale, dans un nouveau rapport publié le week-end dernier, l'ONG International Human Rights Watch affirme que 321 civils ont été tués et 250 autres enlevés par les rebelles de la Téléra dans les groupements de Bakombo en décembre 2009. Enfin, crise entre syndicats des magistrats, le CNAMAG a lancé depuis lundi dernier un appel à l'arrêt des travaux, tandis que l'intersyndicale des magistrats a appelé à la poursuite normale du travail. Trois journalistes se participent à ce débat. Il s'agit de Diana Dikoupa, il est directeur des rédactions au quotidien L'Avenir, c'est un journal qui paraît à Kinshasa. Thierry Lédica, il est rédacteur en chef de la télévision Canal Kin, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Et Marie-Théodore Kipoulou Samba, il est journaliste indépendant évoluant à Bandunguville dans la province de Bandungu. L'opposition s'oppose à une tentative tendant à la révision de certains articles de la Constitution. Human Rights Watch affirme que 321 civils ont été tués par la LRA, ainsi que la crise entre syndicats et magistrats. Ce sont là les thèmes retenus pour le débat de ce soir. Comment la presse kinoise a traité ces différents sujets? Écoutons cette revue de presse que nous présente Samuel Kakak.
Bonsoir! Les journaux parus cette semaine à Kinshasa ont fixé leur projection sur la réunion interinstitutionnelle en début de la semaine. Pour le potentiel, à l'ordre du jour de cette réunion figuraient les échéances électorales 2011, la révision constitutionnelle, la loi électorale, le mandat de la MONU et le cinquantenaire de l'indépendance. De son côté, la prospérité affirme que l'opposition qui en appelle déjà à la vigilance du peuple congolais face à ce qu'elle qualifie de haute trahison estime que Léontiengo Wadondo et Évariste Boshab sont accusés parce qu'ils auraient mordu à la maison en participant à ce qu'elle appelle réunion politique informelle. Autre sujet abordé cette semaine, c'est le rapport de Human Rights Watch sur les exactions commises par la LRA en province orientale. Le phare affirme que pour éviter que les Congolais qui leur échappent aillent rendre témoignage de ce qu'ils ont vu et entendu, les rebelles ougandais se sont résolus de couper les oreilles et les lèvres à leurs victimes dans le village de Makombo en Ituri, en province orientale. Massacre de Makombo, encore une fois, Human Rights Watch a menti pour le besoin de la cause, rapporte L'Avenir, qui croit savoir que le but de ce rapport est de démontrer que la RDC est un non-État où une dizaine de rebelles ougandais peuvent se promener tuant et pillant. Terminons cette revue de la presse avec la grève des magistrats lancée en début de cette semaine par le CINAMAC. À ce sujet, le potentiel précise qu'alors que le CINAMAC lance ce mouvement de grève, l'intersyndicale des magistrats, elle, demande à ses membres de poursuivre normalement le travail. De son côté, Forum des As conclut en estimant que les magistrats sont divisés.
Merci Samuel Kakak. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons d'écouter. Je vois Christian Diana Dikoupa. Vous êtes directeur des rédactions quotidiennes à l'avenir, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Et un petit commentaire par rapport au travail de la presse de cette semaine.
La presse n'a fait que rendre les événements de la semaine. Je pense que autant de sensibilité, autant de titres pour le même événement, chacun saisit ce qui est plus sensible, ce qui est qu'il estime être beaucoup plus important pour ses lecteurs. Alors, je pense que c'est une revue exhaustive et complète.
Thierry Lebica, vous êtes rédacteur en chef de la télévision Canal Kin, c'est une télévision qui est émise depuis Kinshasa. Et comment jugez-vous la manière dont la presse a analysé l'actualité de cette semaine?
Bon, il y a mon aîné et mes confrères parlaient d'une diversité, mais il me semble que quelque part, il y a eu quand même une vision ces communes a beaucoup de journaux qui sont parus cette semaine ici à Kinshasa, ça c'est de un. Et des deux, je me permets de constater que la démocratie est en train de bouger dans notre pays. D'un côté, il y a des idées qui viennent d'un camp, et de l'autre côté, il y a des groupes qui réagissent, c'est bien. Déjà, les magistrats, ils réclament leurs droits, les politiques aussi, mais je solliciterai aussi l'intervention de la société civile, parce qu'il ne faut pas laisser seulement la parole aux politiques. Jusque-là, les églises n'ont pas encore réagi, elles ne doivent pas attendre que les débats restent à un niveau politique avant qu'eux aussi n'entrent en jeu. J'attends les églises, j'attends les organisations de la société civile, que ces organisations puissent aussi émettre de la voix par rapport à ces grands sujets d'actualité, notamment la révision constitutionnelle, hein, je les attends.
Marie-Théodore Kipolo-Samba, vous êtes journaliste indépendant évoluant à Bandundu-Ville, dans la province de Bandundu. Et quelle est l'actualité qui a dominé la province de Bandundu cette semaine?
Bon, l'actualité qui retient la population dans la province de Bandundu en général, et spécialement dans la ville de Bandundu, qui est le chef-lieu de la province, c'est bien évidemment cette histoire de la révision constitutionnelle sur la prolongation du mandat présidentiel. C'est ce qui attire beaucoup plus l'attention des gens, bien entendu. On n'oublie pas ce qui se passe dans le nord de la province orientale, où il y a des morts d'hommes. Et évidemment, la presse chinoise dit ce qu'elle peut penser, mais à l'intérieur du pays, on voit les choses un peu différemment. Mais néanmoins, l'essentiel est qu'on suit attentivement ce qui se dit, ce qui se passe à Kinshasa, autour justement de cette grande discussion sur la révision de la Constitution.
Merci, nous passons à notre premier thème de ce soir. L'opposition institutionnelle s'oppose à toute initiative tendant à la révision de certains articles de la Constitution, notamment l'article 220 relatif au mandat du chef de l'État. Par ailleurs, elle estime que la réunion interinstitutionnelle est une structure informelle dépourvue des fondements juridiques. Dans son compte rendu fait lundi dernier, la réunion interinstitutionnelle a fait état de plusieurs points évoqués au cours de cette rencontre. Il s'agit entre autres de la nécessité de modifier certaines dispositions de la Constitution et de la loi électorale, notamment les mandats du président de la République et les découpages territoriaux. À propos de la révision constitutionnelle, l'opposition parlementaire s'oppose à toute initiative tendant à la révision de l'article 220 de la Constitution relative au mandat du chef de l'État. Dans une déclaration faite à la presse mardi dernier au Palais du Peuple, l'opposition estime que la structure interinstitutionnelle mise en place est informelle car elle n'a aucune base juridique. On écoute François Mwamba, député MLC, au micro de Julien Yamouni.
Sur cette question concernant la révision éventuelle de la Constitution de la République, l'opposition parle d'une même voix.
La réunion interconstitutionnelle, si elle n'est pas informelle, alors c'est une structure illégale dont nous condamnons avec la dernière énergie le mode de fonctionnement. La deuxième chose que nous avons condamnée, c'est que on y fait siéger le premier président de la Cour suprême de justice. Il n'y a plus de respect de séparation de pouvoir. C'est extrêmement grave et là aussi, il y a violation de notre Constitution. Si dans une réunion à laquelle participe le président du Sénat, à laquelle participe le président de l'Assemblée nationale, prend des décisions, que reste-t-il comme matière sur le même sujet aux plénières de l'Assemblée nationale ou du Sénat? Ça devient alors des chambres qui font écho de simples chambres d'enregistrement. C'est un retour en arrière extrêmement grave. Troisièmement, si on a bien compris, le chef de l'État n'a pas l'intention de passer par un référendum, mais pour autant qu'on ne passe pas par un référendum, ce sont les deux chambres du Parlement qui sont concernées, mais si eux, je leur donne déjà ces orientations, ça veut dire qu'ils vident toute la matière dont susceptible d'être discutée au niveau de ces chambres.
Dialogue ou pas, comment peut-on comprendre l'attitude de l'opposition?
Le contraire nous aurait étonné que l'opposition puisse applaudir une décision qui vient de ce qu'on appelle le pouvoir. C'est un peu malheureux dans notre pays, mais en ce qui concerne le problème particulier dont on parle, la révision constitutionnelle, l'opposition qui est dans le système, qui participe, je veux dire, à la gestion de l'État, en état, elle s'appelle bien l'opposition institutionnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas l'opposition à l'époque de Mobutu qui était, c'est parce qu'à l'époque on se battait contre les systèmes, maintenant ils sont dans les systèmes. Et que cette opposition estime qu'elle ne voit pas les difficultés qu'on a en ce qui concerne le fonctionnement de certains articles de la Constitution, qui n'oublions pas ont été érigés dans une certaine euphorie de la transition. On m'en veut pour cas, bientôt le 15 mai, on n'aura pas c'est le découpage. On va être dans l'inconstitutionnalité. Si on demande de réviser la Constitution, ce serait de s'adapter, c'est par respect à la Constitution qu'on voudrait qu'on puisse réviser parce qu'on n'est pas en mesure de mettre 26 provinces.
L'opposition dénonce plutôt la tentative de réviser l'article 220, qui est considéré comme étant un article verrouillé.
J'en arrive. Et puis, il n'y a encore jusque-là aucune décision de révision, de réviser, même pas les articles où c'est clair que ça fait un problème. En ce qui concerne l'article 220, dont personne n'a parlé, on a parlé du mandat du président de la République. Je peux même ironiser. La réunion de la session nous parle du mandat du président de la République. N'a pas parlé de sa révision dans le sens de prolongation ou de réduction. Ça peut aussi être réduit à 2 ans. Donc, mais le deal ou le principe constitutionnel est qu'on ne touche pas à ce mandat-là. C'est ça le vrai principe. Et que l'opposition a le droit de rester dans le cadre normal au lieu de faire une certaine agitation politique. Et il est clair que même le chef de l'État, même la réunion institutionnelle, n'a pas abordé ce point qui a été proposé par une commission. Eux-mêmes disent très bien que c'est une commission qui n'a aucune base juridique. C'est une commission exactement informelle qui devrait donner la matière à des institutions. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est une commission qui n'a aucune base commissionnaire à proposer comme étant des choses, la chose décidée? Non. Et même la réunion que j'ai dit, avant que cela ait de la valeur, ils ont fait de ces décisions, de ces propositions, leur. Alors, ils ont fait leur en ce qui concerne justement deux problèmes de la réalité. Et celui du mandat du président de la République, ils n'en ont pas parlé, ils ont demandé à ce que cela soit soumis à un débat. Au fond,
merci. Thierry Lédica, Diana Dikoupa, je voulais dire que la Constitution interdit de toucher à l'article 220, mais pourquoi l'opposition semble s'agiter?
Non, l'opposition a toutes les raisons du monde de s'agiter parce que mon vieux Diana n'est pas un novice. Hein. Il a sûrement lu le numéro de Jeune Afrique du mois dernier où le ministre du Plan congolais, Olivier Kamitatou, a parlé en prémisse de la révision constitutionnelle. Le ministre Olivier Kamitatou a été on ne peut plus clair. Il a dit qu'actuellement, le président de la République démocratique du Congo n'a pas assez de pouvoir. Il faut lui ajouter de pouvoir, mais également, il a parlé de son mandat qui coûterait 5 pour aller à 7 ans.
Là, c'est extrêmement clair. C'est une opinion, l'opinion d'une seule personne. Le candidat soit engagé tous les gouvernements congolais.
Mais quelle coïncidence. Je ne sais pas, heureuse ou malheureuse, mais le candidat tout parle en moins d'un mois et l'interinstitutionnel le suit. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence. Il y a des évidences dans tout ça. Il y a une volonté. Et cette volonté ne commence pas en ce mois de mars 2010. Vous vous rappelez du professeur Kalala Chibangu, moins d'une année à peine après le référendum constitutionnel de décembre 2006,
ANP
parlait déjà d'une révision constitutionnelle. Une année à peine, la constitution américaine, qui a une centaine d'années, n'a été révisée que par 5 fois. Chez nous, en République démocratique du Congo, en moins d'une année, il fallait déjà réviser la constitution. Vous voyez que les dangers ne commencent pas aujourd'hui tel que mon aîné voudrait calmer la classe politique, voudrait calmer l'opinion publique. Il y a réellement danger. Quand on cherche à bouger une constitution, c'est comme je disais tantôt, ce n'est pas seulement une question qui concerne les politiques, c'est une question qui concerne tout Congolais sensé, tout Congolais qui aime ces pays. Pourquoi ? La Constitution, c'est comment on appelle ça ? La loi des lois, c'est comme la Bible. Le jour qu'on déchire une page de la Bible, vous voyez tous les chrétiens s'agiter. C'est encore grave avec les musulmans. Si vous touchez au Coran, vous touchez tous les musulmans du monde entier. Autant, si vous touchez à la Constitution, vous touchez à tout Congolais sensé.
Mais vous reconnaissez que la révision de la Constitution est constitutionnelle ?
La révision de la Constitution est extrêmement constitutionnelle. Ce que mon aîné n'a pas dit aussi, c'est que l'opposition dans sa majorité, comme elle a fait la déclaration cette semaine ici, ne refuse pas la révision de la Constitution. Tout le monde est d'accord qu'il y a des articles qui posent problème, notamment à propos de 40%, à propos de la nationalité. Nous sommes le seul pays au monde actuellement qui pense qu'il faut que la nationalité congolaise soit une et exclusive. Tous les pays du monde qui se veulent mondialiser, qui veulent le développement, estiment qu'il y a des Congolais estiment qu'ils ont des nationaux qui sont éparpillés dans le monde, qui peuvent contribuer au développement de leur pays à travers la double nationalité. Ça, on est d'accord. Mais l'article 222, même l'interinstitutionnel, ne devait même pas en parler, parce que c'est tout à fait clair. Je ne sais pas si vous me permettez, vous pouvez le faire à l'intention de nos auditeurs, pour qu'on ne reste pas dans la politique des politiciens, qu'on soit plutôt des informateurs. Qui dit la Constitution? Je ne sais pas si tout le monde a lu l'article 220, mais on peut essayer de rappeler.
Nous allons lire l'article 220. Nous donnons d'abord la parole à Marie-Théodore Kipoulou. Marie-Théodore Kipoulou, même si la révision de la Constitution est constitutionnelle, mais à votre avis, quelle est l'opportunité de cette révision pour le moment?
Bien, écoutez, Radio Kassi, je note d'abord ceci, du moins au niveau de Bandundu. qu'au-delà de l'exercice du pouvoir par l'exécutif, ou encore la mission d'évoluer à l'opposition dans un système démocratique, de s'opposer à ce qui se fait au gouvernement pour le bien du pays, mais la constitution du pays n'est pas un fait privé ni du pouvoir public, ni de l'opposition. La constitution, c'est une affaire de tous les Congolais, parce que la constitution découle d'un référendum où tout le peuple congolais s'est exprimé. Or, vous constaterez à l'état actuel des choses, c'est le gouvernement et l'opposition qui s'entretient autour de cette révision de la constitution, et la société civile, malheureusement, n'est pas encore partie prenante dans ce débat. Deuxièmement, c'est vrai qu'il est libre à tout Congolais de réfléchir, d'analyser, de chercher des voies et moyens pour que nous allions de l'avant, c'est une bonne chose, mais cela ne se fait pas en désordre. Je veux dire quoi? Je veux dire, il faut qu'on s'en tienne au texte constitutionnel. Et lorsque vous regardez le texte constitutionnel, à cet article à laquelle vous faites allusion, plutôt auquel vous faites allusion, le mandat du chef de l'État n'est pas prévu à une quelconque régularité entièrement pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives des dispositions relatives à la forme républicaine de l'État, au principe du suffrage universel, à la forme représentative du gouvernement, et au nombre et à la durée des mandats du président de la République, à l'indépendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l'objet de toute révision constitutionnelle. Je vais aller plus loin pour dire que lorsque le président de la République, je ne cite pas dire, le président de la République très clairement, il dit ceci, moi, je ne vais pas l'exemple de l'actuel président de la République. Moi, je le savais, la président élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et devant la nation d'observer et de défendre la constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, et je m'attends sur ce qui suit, suivez-moi, de ne me laisser guider par par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix. Et jusque-là, on peut continuer. Alors, dans ce débat-là qui se passe entre le gouvernement, les déclarations de M. Olivier Kamita, ministre du Plan, ce que dit l'opposition, il y a deux questions à se poser tout naturellement. Quel danger court le pays avec les actuelles dispositions constitutionnelles sur la durée du mandat présidentiel? Deuxièmement, quel avantage a ou aura le peuple congolais plutôt après une éventuelle révision de ces dispositions pour un mandat d'une année, soit de deux ans, soit un mandat illimité?
Voilà les
questions qui se posent ici, auxquelles questions le politique, le gouvernement, l'opposition et la société civile doivent clarifier pour que l'opinion sache exactement de quoi est-il question.
Merci Marie-Théodore, Diana Dikoupa. Dans l'émission Dialogue entre Congolais de mardi dernier, nous avons reçu le vice-président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale, l'honorable Obenginaku. Il a dit que pour PPRD, il ne s'est jamais agi d'envisager l'éventualité de la révision de l'article 220. Mais pourquoi on semble s'agiter dans l'opposition?
C'est ce que je disais tout à l'heure, que l'opposition trouve tout intérêt lorsqu'il y a un petit gars, alors il s'agite pour son but, c'est de noircir, de démontrer une certaine opinion que voilà, ce pouvoir, cette majorité ne va pas dans le sens de la démocratie, et ainsi de suite. Le contraire qui est avec moi sur le plateau ici, il a malheureusement cette démarche-là, il a dû penser qu'on aille dans la démarche de journaliste pour l'informer, mais lorsqu'on est lu de certaines questions dans cette démarche, on sort de l'information du journalisme, on sort de la politique. Il a cité par exemple Tshibango Kalala, il a cité Olivier Kamitatou, mais pourquoi il n'a pas cité le chef de l'État lui-même? Parce que quelques jours après la déclaration de Tshibango Kalala, le président de la République a réagi, il a même réagi au cours d'un point de presse, il a dit que pour lui, c'est pas question de réviser son mandat ou de chercher qu'il participe au Conseil supérieur de la magistrature, et il a dit qu'il a déjà un mandat, le premier mandat il n'a même pas encore terminé, il a la possibilité de dire pourquoi il cherche
tirer un autre. Le chef de l'État réagit à ce sujet. Donc, il ne faut pas se citer Olivier Kavitato et Tshibangu qui sont allés dans le sens de la révision, selon lui, et ne pas citer la personne la plus concernée. Et le conseil qui, pour le moment, avait de défini, c'est lui qui a prêté serment sur la Constitution de la défendre, a dit qu'il n'est pas question. Et moi, je m'en tiens à cela. Olivier Kavitato n'a pas prêté serment de protéger la Constitution, c'est un politicien. Il peut faire sa politique. Tshibangu Kalala, c'est un politicien. Il est d'autant que François Mamba, ils peuvent donner leurs opinions. Ces opinions n'engagent pas la République. Ils ne sont pas le garant de la Constitution. Mais moi, je m'en tiens à ce que le chef de l'État, Joseph Kabila, avait dit à ce sujet. Il n'a jamais été question pour lui de réviser la Constitution pour revoir son mandat. Et même lorsqu'on parle de l'article 220, cet article 220 ne parle pas que du mandat du chef de l'État. Donc, et puis la réunion interinstitutionnelle. La réunion interinstitutionnelle n'a pas pris de décision non plus. La réunion interinstitutionnelle, il y a une procédure pour la révision constitutionnelle. Il y a l'initiative. Et peut-être que, je ne sais pas si c'est le président qui va prendre l'initiative, ou c'est l'Assemblée, oui. Ou c'est qui. Mais on a mis en place une commission informelle qui a fait des propositions. Et la réunion interinstitutionnelle, c'est basé sur ces propositions d'une commission.
Thierry Dika, quel intérêt la majorité aurait de pouvoir réviser l'article 220 maintenant?
Je vous répondrai bien évidemment, mais je voudrais aussi réagir par rapport à deux choses, par rapport aux propos que vient de tenir mon aîné et confrère, tantôt là par rapport au chef de l'État, mais aussi par rapport aux questions de notre confrère de Bandundu. Par rapport à votre question, quel est l'intérêt pour la majorité aujourd'hui? L'intérêt n'est qu'égoïste, l'intérêt n'est que politique. Il n'y a pas d'intérêt en tant que tel à réviser la Constitution, surtout pour ce qui concerne le mandat du chef de l'État et la durée et tout ça. Pourquoi? Parce que on parle de Kalala Tshibangu. Je parle de lui. À l'époque de Kalala Tshibangu, il parlait du chef de l'État qui enterrait au Conseil supérieur de l'administration, mais également à côté de cela, il y avait un intérêt égoïste qui consistait à dire que les députés et sénateurs qui quitteraient l'hémicycle pourraient rentrer après avoir fait je ne sais pas quoi au gouvernement ou autre chose, ils reviendraient plus tard. Un intérêt égoïste. Aujourd'hui encore, à côté de ce que dit aujourd'hui l'interinstitutionnel, il y a encore des intérêts égoïstes, notamment cette même question, j'en prends seulement une question, celle de retour des députés et sénateurs au niveau de leur chambre. Déjà égoïste, pourquoi? Parce qu'ils parlent de députés et sénateurs, mais ils ne parlent pas des députés provinciaux qui pourtant sont élus au suffrage universel mieux que les sénateurs. Vous voyez combien de politiques qu'on a dit sont égoïstes. Ça c'est de un. De deux, je vais rentrer à propos du chef de l'État. Faisons un peu d'histoire. Le 6 décembre, les discours dont parle mon confrère ici, comme là où le chef de l'État a carrément rejeté la vie de Kalala Tshibangu. Mais une année exactement après, le 7 décembre 2009, qu'a dit le chef de l'État? Une révision constitutionnelle était toujours possible. On est parlant en termes de temps, on est à 3 ans seulement après le référendum constitutionnel de 2007. Mais le problème de fond dans tout ça, c'est quoi? Je vais encore le répéter. L'opposition n'est pas contre la révision constitutionnelle pour ce qui concerne les 40% de rétrocession aux provinces, pour ce qui est de la nationalité, pour ce qui est des provinces. Tout le monde, ça c'est un intérêt pratique. Tout le monde est conscient aujourd'hui que d'ici fin avril, il nous est impossible d'avoir 26 provinces. Mais là où tout le monde, tout Congolais, tout homme censé devait ne pas être d'accord, c'est à propos des questions que mon père de demande nous est en train de poser. Quels sont les dangers? Les dangers, c'est quoi? C'est donner plus de pouvoir à un homme qui n'en a même pas besoin aujourd'hui. La Constitution de 2006 a donné beaucoup de pouvoir au président de la République actuelle, qui peut nommer un Premier ministre, qui a beaucoup de choses, qui est consulté pour nommer beaucoup de personnes chez l'État-major général. Il a beaucoup de choses à faire, le chef de l'État, mais il n'en a même pas besoin. Moi, je pensais, comme les médias n'ont pas voté par le chef de l'État, il doit prendre la parole pour dire que moi, qui a été élu en 2006, je me sens bien, j'ai beaucoup de pouvoir, et qu'il le dise. Non, maintenant même là, la question est sensible. Comme le juge l'a dit, le chef de l'État a intérêt à éclaircir le peuple congolais. Que moi, Joseph Kabila, je ne veux pas de ces pouvoirs-là que Olivier Kabila devait me donner. Parce qu'Olivier l'a dit, la présidence n'a pas réagi, l'AMP déjà vous le dites, hein, le vice-président du groupe parlementaire a réagi, mais moi je voudrais que ce soit le chef qui en parle, qui dise aux Congolais que moi je me sens bien, d'ici une année durant les élections, j'ai un bon bilan à présenter, je suis réélu, clairement.
Merci. Marie-Théodore Kipoulou, Thierry Lédica pense que le chef de l'État devrait se prononcer par rapport à cette question. À partir du moment où son parti politique, le PPRD, par la voix de son secrétaire exécutif, le député Moussa Mena, dit que au PPRD, il n'a jamais été question de la révision de l'article 220. Cela ne suffit pas une telle déclaration pour tranquilliser l'opposition?
Oui, mais écoutez, le débat est déjà sur la place publique. Quand nous en parlons maintenant à la radio, c'est public. Ce qui a été dit par la réunion informelle, suite à l'informelle, c'est public. Mais ce qu'il faut retenir, je crois que je vais m'arrêter là-bas, c'est que, vous savez, mon frère, chaque régime naît avec les germes de sa propre destruction. Et les germes de sa propre destruction, quoi, ce sont ceux qui composent ce régime-là. Deuxièmement, l'immortalité d'un homme d'État n'est pas fonction de sa durée au pouvoir, mais bien des idées fortes et des actes concrets qui pérennisent son nom. Je crois que c'est sur ça qu'on doit s'appréhender.
Ok, merci. Nous passons à notre deuxième thème ce soir. Province orientale, dans un nouveau rapport publié le week-end dernier, l'ONG internationale Human Rights Watch affirme que 321 civils ont été tués et 250 autres enlevés par les rebelles de la LRA dans le groupement des Makombo en décembre 2009. Une affirmation cependant rejetée par le commandant de la 9e région militaire de la province orientale. Après le massacre des Makombo dans les territoires du Niangara en province orientale, la guerre des chiffres est lancée entre le gouvernement congolais et l'ONG Human Rights Watch. Les officiels congolais rejettent le chiffre de 321 morts et refusent de parler des massacres à grande échelle dans cette partie du pays. Par contre, plusieurs sources locales contactées par Radio Okapi affirment qu'il y a bel et bien eu massacre à Makombo. Plus de détails avec José Deschartemenga.
Toutes les sources que nous avons contactées affirment que plusieurs personnes ont été tuées par la LRA dans la province orientale. Parmi elles, des prêtres catholiques de Niangara, la société civile locale, des rescapés de ce massacre ainsi que des députés provinciaux du coin. En décembre dernier, la LRA avait attaqué les localités voisines de Makombo, Tapili et Mabanga dans le territoire de Niangara, non loin des frontières ougandaises et soudanaises. Le massacre a commencé un jour du marché dans les villages et s'est poursuivi dans les localités environnantes sur 3 à 4 jours. D'autres villageois ont même été rattrapés par les assaillants au niveau de la rivière Bomokandi quand ils tentaient de fuir. Un prêtre du coin rapporte avoir vu de ses yeux plus de 150 corps, hormis ceux qui gisaient dans la brousse. Arrivé à Isiro, le prêtre avait même demandé à l'État et à la Croix-Rouge d'aller aider à l'enterrement des corps. En ce moment-là, les FRDC n'était pas encore déployé sur les lieux. La société civile locale s'est dit même très émue d'entendre les officiels congolais minorer les chiffres et minimiser ainsi leur drame. Pour elle, l'État cherche à se dérober sa responsabilité de protéger les personnes et leurs biens.
Diana Dikoupa, le quotidien L'Avenir, qui est votre journal, a titré dans son édition du 31 mars dernier, Massacre des Makombo, encore une fois, Human Rights Watch a menti pour les besoins de la cause. Vous pensez que Human Rights Watch a menti, pourtant, toutes les sources contactées confirment qu'il y a eu massacre. Même le commissaire adjoint du district du Haut-Ouélé reconnaît qu'il y a eu massacre. Il avance les chiffres d'environ une soixantaine de morts.
Vous savez, en fait, personne de sensé ne peut nier la férocité, la barbarie des LRA, comme des FDLR. Personne ne peut nier que ces gens-là tuent. Mais ce qui est choquant, c'est que même lorsqu'un prêtre dit qu'il a vu 154 corps, je me demande, il les a comptés. Vous voyez le 100 corps, 154 corps, c'est dans quelle étendue, et pour qu'il fasse, même s'il avait une caméra, il faut la paranomique, et vite, il a le chiffre 150. Non, vous savez, je ne sais ce que ça veut dire. Quand il voit déjà une dizaine de corps, c'est pas le pire, mais c'est déjà beaucoup, c'est trop. Même l'ELRA tué deux personnes, c'est déjà beaucoup, parce que l'ELRA n'a rien à voir avec le Congo. L'ELRA, son combat doit être en Ouganda, où il ne se bat pour les impôts, mais venu tuer des Congolais innocents pour rien, même s'il n'y a qu'un homme, une moitié d'hommes tués, si cela peut être possible, c'est déjà très grave.
Mais lorsque vous dites en disant que l'ONG Human Rights Watch a menti pour les besoins de la cause,
je voulais en arriver. Le besoin de la cause pour Human Rights Watch, ça a été toujours son combat, c'est de démontrer que donc il n'y a personne pour assurer la sécurité de la population, et que donc tout ce qu'on dit après les opérations conjointes, qu'on dit qu'on a réduit la capacité de nuisance de LRA et tout ceci, Human Rights Watch doit montrer même du côté des FDLR. Cela a été toujours la position de Human Rights Watch de montrer qu'il n'y a rien. Et que cette fois, même la MONUC. Donc la MONUC doit se sentir interpellée par ce massacre de l'air, parce que la MONUC a comme mission quoi ? Protéger la population.
qui ont été tués. Ce ne sont pas des soldats des FARDC, c'est de la population. Même la MONUC doit sanctionner pas seulement les FARDC qui n'ont pas fait leur travail de protéger la population, mais aussi la MONUC.
Donc, à certains points de vue, vous reconnaissez qu'il y a eu un massacre. On n'a jamais nié le massacre, mais c'est le nombre. Même le commandant, ils disent que même l'armée ougandaise, qui n'a aucun intérêt à protéger les LRA, a estimé que non, tel chiffre, c'est dépassé parce que l'armée ougandaise aurait tout intérêt à grossir ce chiffre pour qu'enfin, qu'on n'ait pas à négocier avec cette histoire pour le moment, vraiment, ce sont des criminels. Mais c'est donc pour dire que c'est le chiffre, même la MONUC, le rapport de la MONUC, ne confirme pas le chiffre, le 300 000 personnes dans 10 villages et pendant. La MONUC parle d'environ 290 personnes tuées.
Bon, la MONUC parle de 280 et l'autre parle de 210, plus 250 emportés. Par combien, une dizaine de 20 à 40 personnes qui tuent 300 et qui prennent plus que des gens et les amènent. Merci. C'est vraiment pour montrer qu'il n'y a personne qui peut protéger cette population-là.
Merci. Thierry Nedica, le quotidien de la tempête et des tropiques dans son édition de lundi 29 mars dernier, à la une, dit ceci, Human Rights Watch accuse la LRA d'avoir massacré plus de 300 civils en décembre 2009. Mais le commandant de la 9e région militaire de la province orientale ne reconnaît pas ce massacre. Pourtant, le commissaire adjoint du district de Diouwélé, lui, reconnaît qu'il y a eu massacre, mais il parle d'une soixantaine de morts. On sait qu'il y a une guerre et des chiffres. Comment vous analysez cela?
Non, il faut peut-être être Dieu pour arriver à l'instant ici à trouver les chiffres. Je crois que le combat des chiffres ne nous aidera peut-être pas à avancer. Ce qui est sûr, comme a dit mon confrère, il y a eu des Congolais qui s'étaient tués, et ça, il faut toujours condamner. Mais ce qui me fait mal, et je suis un peu mal à l'aise d'en parler, c'est que ces choses se sont passées au mois de décembre dernier. On en parle aujourd'hui 2 avril 2010. Vous voyez combien la vie du Congolais a de la valeur. Et pour notre gouvernement, et pour tous ceux qui nous tirent aujourd'hui, il fallait que Human Rights Watch dise ce que mon ami est en train de dire là, des bêtises, des mensonges, pour que les gouvernants congolais puissent passer à la télévision, puissent faire des conférences de presse pour se faire donner des chiffres qu'ils n'ont pas d'ailleurs. Vous voyez? Vous savez ce que je veux dire? C'est pas normal. Le jour que les gens vont dans les élections, ils se prennent comme candidats, c'est tout en sachant leurs responsabilités. Je sens quelquefois que nous, Congolais, nous sommes laissés à notre triste sort. 25, 291, 210, comme dit la MONUC, des Congolais qui meurent, et le gouvernement congolais ne prend en charge cette question que 4 mois après, premièrement. Deuxièmement, dans cette histoire, j'ai bien peur que ce soit toujours nous les Congolais qui serons des idiots. Parce que les Ougandais vont peut-être en profiter. Ils en parlent déjà. Hein, le porte-parole de forces armées de la République ougandaise a dit que nous, Ougandais, nous sommes prêts.
Il faut quand même dire que les Congolais ne sont pas idiots.
Non, idiots face aux Ougandais. Hein, qui sont en train de dire là encore
comment,
que.
Comment
non, les Ougandais profitent de l'occasion pour dire que nous sommes prêts à revenir à la République démocratique du Congo.
Ils l'ont dit où?
Le porte-parole de l'armée ougandaise a dit que si le gouvernement congolais nous appelle, nous viendrons encore pour. N'ai jamais trouvé M. Kony, tout ça. Pourquoi est-ce que les Ougandais, les Rwandais continueront d'entrer sur le sol congolais pour chercher 50 LRA? Nous sommes incapables, nous, Congolais, de nous organiser pour mettre un terme à tous ces boulots. Human Rights Watch, RFI. Le gouvernement congolais a le moyen de donner la bonne information à la population et d'arrêter ce genre de choses-là. Plutôt que d'attendre 4 mois pour en parler, pourquoi depuis tous ces temps, le gouvernement ne s'est pas occupé de cette question? Des neuf choses à dire, il faut se poser la question, est-ce que nous sommes capables de gérer ce genre de questions comme LRA, tout ça. J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que notre gouvernement est. Non, mais les temps déjà, la durée que cette histoire a prise, mais également tout ce qu'on a vu, le général Kony, ça fait depuis 2 ans qu'on en parle, mais personne n'arrive à les trouver. Ce n'est pas quand même Ben Laden qui se cache quelque part en Afghanistan. Il est sur le sol congolais ou bien sur le sol sud-africain quelque part. Mais on nous le trouve un jour. Mais le jour qu'on nous le trouvera, je serai content de voir un policier congolais déjà me dire voilà, notre gouvernement congolais travaille et nous savons résoudre le problème qui touche les Congolais. Apparemment, jusque-là, ils sont incapables.
Merci. Marie-Théodore Rokipoulou, votre point de vue par rapport à cette guerre de chiffres.
Bien, écoutez, Radio Capé, je me trouve à Bandundu à combien de kilomètres, je ne sais pas, 2-3 000 kilomètres du lieu de ces événements. En tant que journaliste, peut-être ça aurait été mieux que je sois sur place, mais malheureusement, je ne peux pas y arriver. Et même les bribes d'informations que nous recevons, ce n'est pas facile d'avoir des informations précises. Mais ce qui scandalise, ce n'est pas le de ce que vous êtes en train de dire. Le fait qui scandalise, c'est pas qu'il y a mort d'homme. qu'il n'y ait qu'un seul Congolais qui soit tué par les LRA. Mais c'est un Congolais, il a droit à la protection. Imaginons-nous un seul instant que l'armée congolaise ou un groupe de Congolais prennent en otage un Américain ici chez nous. Et le gouvernement américain va réagir. Il ne va pas dire, bon, écoute, puis finir avec un seul en otage, on peut laisser l'affaire passer. Non. Moi, nous ne nous trouvons pas dans ce débat-là des chiffres. Nous nous trouvons dans le débat de savoir un Congolais, deux Congolais, 10 Congolais, 1000 Congolais ont été tués, même si c'est un seul Congolais. C'est un Congolais qui a tout le droit de vivre comme un Congolais qui habite Kinshasa, qui habite Lubumbashi, qui habite Bandundu, qui habite Kipi, qui habite Kikongi, qui habite Ikalu, comme tout Congolais. Et il a droit à la protection par tous les moyens. C'est ce débat sur le chiffre, qui a dit vrai, qui a dit faux, est-ce que c'est le même chiffre, est-ce que c'est pas le chiffre, c'est honteux ça, c'est honteux.
Merci, nous passons à notre dernier thème ce soir. Crise entre syndicats des magistrats, le Sinamac a lancé depuis lundi dernier un appel à l'arrêt des travaux, tandis que l'intersyndicale des magistrats a appelé, elle, à la poursuite normale du travail. Mais comment se présente la situation sur ce terrain? Radio Capi a fait un tour d'horizon dans différentes provinces du pays. Suivez ce récit de Kéline Kouté.
À Kananga, dans la province du Kasai Occidental, les magistrats ont observé la grève annoncée par Kinshasa. Elle est sèche et les magistrats sont à la maison. Confirmation faite par la substitut du procureur de la République. Mais selon d'autres sources, l'observation de cette grève n'est pas totale, contrairement à ce qui se raconte. La cour d'appel, le tribunal de grande instance, le tripé de Kananga et celui de Tshikapa ont respecté le mot d'ordre. Quant au tribunal de grande instance de Luebo et le tripé de Lebo fonctionnent comme à l'accoutumée. Ils justifient leur position pour les uns par l'absence de notification formelle, tandis que d'autres se disent préoccupés par le souci d'éviter les violations de droits de l'homme, notamment les irrégularités dans les détention. Au Sud-Kivu, par contre, les magistrats observent sans faille l'arrêt du travail de 7 jours en guise de protestation contre le projet de loi sous critique, selon une source syndicale. Même constat à Goma au Nord-Kivu, au niveau du tribunal de grande instance, seul le président et les administratifs arrivent au service chaque matin. De même, au niveau de la cour d'appel où les substituts du procureur général viennent au service, ainsi que le premier président de la cour d'appel. Mais aucune audience ne se tient et les salles d'audience sont même fermées. Pareil aussi pour Kisangani dans la province orientale, où toutes les audiences sont suspendues dans les tribunaux et parquets. À Lubumbashi, toutes les activités ont été paralysées. On peut lire sur une grande affiche à l'entrée du palais de justice, je cite, Sinamag, grève des magistrats du 29 mars au 3 avril. Fin de citation. À Matadi, dans la province du Bas-Congo, outre la présence de certains administratifs dans certains bureaux, la semaine dite palais mort est bel et bien respectée par les magistrats. Contrairement aux provinces que nous avons citées si haut, à Kinshasa, l'appel à l'arrêt du travail a été partiellement respecté, comme dans la province du Kasaï occidental.
Diana Gikoupa, je rappelle que vous êtes directeur des rédactions quotidiennes à l'avenir, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Dans son édition de lundi 29 mars dernier, l'avenir qui est votre journal, titre sur sa manchette, magistrat en grève, le Sinamac fait de l'agitation politicienne. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Il y a une réaction de magistrat sur un projet de loi. Voilà qui est étonnant, un projet de loi. Qui, n'importe qui a l'initiative de loi peut proposer une loi. Cette loi va passer à l'Assemblée nationale où il y a 500 élus que nous avons mis là-bas pour ceux qui devraient discuter. La question serait envoyée dans une commission, je crois, la commission, je dis quelque chose comme ça. Et que là, on pourrait appeler les magistrats, dont le Sinamag, pour donner leurs avis. Donc, je vois que la démarche est lorsque ça sera passé à l'Assemblée nationale et dirait à la Chambre haute, c'est-à-dire au Sénat. Le Sénat va adopter la même démarche, débat général et puis et travaux en commission, la commission va présenter son rapport. Et
donc vous pensez que le Sinamac n'a pas raison de demander au magistrat de servir l'arrêt du travail?
Le Sinamac est allé trop vite en besogne dès le moment où il y avait la possibilité de participer, de faire un vrai débat juridique, parce qu'en fait, il dénonce la réduction de la liberté, l'empiètement de l'indépendance de la magistrature. C'est constitutionnel. Or, on sait que toute loi après avoir été voté par le Parlement, elle va au président, et au président de la République, le président, avant de la promulguer, l'envoie à la justice, c'est-à-dire à la justice. Vous voyez donc, le Sénat n'a même pas confiance à la Cour suprême de justice, qui pourrait, en dernier ressort, constater qu'on a empiété à l'indépendance de la magistrature, que c'est anticonstitutionnel, et renverrait la loi. Est-ce vraiment pour eux, alors qu'il y a toute une longue démarche à faire, ça valait la peine qu'on puisse maintenant aller en grève?
Oui, Thierry Lédica, comme le dit Diana Dikoupa, vous pensez que les Sinamak n'avaient pas le droit de demander aux magistrats d'aller en grève?
Nous sommes heureux qu'aujourd'hui nous parlions de la Constitution. Hein. La grève, c'est un droit garanti par la Constitution de la République démocratique du Congo. Et puis, les magistrats n'ont pas fait une grève éternelle. C'est une grève qui part du 29 au 3 avril. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le problème de fond, mon aîné a commencé à en parler, je voudrais le suivre, hein. C'est le problème de la séparation de pouvoir. Autant pour la Constitution, autant pour ces sujets ici, la séparation de pouvoir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut pas chercher que chez nous, au Congo, nous puissions tous les jours faire bouger Montesquieu dans sa tombe. On doit le laisser se reposer en paix en garantissant la séparation de pouvoir. C'est un combat qui est légitime. Hein. On l'a vu il y a quelques années en France. Hein. Nous ne vivons plus dans un monde, nous vivons dans un monde qui est globalisé. Ce qui se passe en France, on voit ça. Les magistrats français ont eu pratiquement la même démarche que les magistrats d'autres pays. On a vu à Paris des magistrats qui ont marché pendant des jours et jours pour dire que nous tenons à la séparation de pouvoir. Ça, c'est un fait. Deuxième fait, toujours la responsabilité de nos gouvernants. Je suis heureux que mon aîné soit là. Le magistrat s'appelle Thomas Okudi et est passé le samedi dernier à la RTGA. Je sais que c'est que ça vous passe à la RTGA.
Comment vous dites qui est le président de
l'intersyndicale? L'intersyndicale. Je l'ai suivi.
Évidemment.
Je l'ai suivi et j'ai vite compris en tant que professionnel qui l'a envoyé pour dire ce message-là. Il passe un samedi, pourquoi? Pour dégoncer un peu le mouvement des Sinamag. Le gouvernement doit arrêter avec cette façon de faire, de toujours chercher à solutionner le problème par des fausses solutions. La solution au problème, c'était le dialogue. Malheureusement, encore une fois, les ministres, les yeux, concernés par ces problèmes, ne reçoivent les gens des Sinamag que le lundi, le jour où ils amorcent déjà leur grève. Et pourtant, nous, journalistes, l'opinion savait déjà qu'il y avait une menace. C'est quelle façon de gérer la chose publique?
À partir du moment où ils sont reçus, même l'intersyndicale des magistrats s'entretient avec le président de l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils ne peuvent pas attendre que ces négociations aboutissent?
Non, je pense que leur combat, ce n'est qu'un combat de communication pour de l'opinion. Nous sommes en grève pour que tout le monde sache que notre corps est en danger. Ce n'est que ça, c'est la communication. Cette grève ne me fait pas peur. Hein. Les affaires qui pouvaient être jugées le 29, pour ceux qui sont victimes de cette situation, les trois, ces affaires seront jugées. Mais je termine par quoi? Les magistrats, aujourd'hui, je suis avec eux, mais ils doivent se regarder aussi en face. Hein. La magistrature congolaise est parmi les freins au développement de ces pays. Les juges, nous,
pourquoi?
Nous aimons bien aller au parquet, aller partout ici, beaucoup d'affaires qui sont mal jugées. Je voyais encore il y a quelques jours une dame qui pleurait à mon lieu en télévision parce qu'un Libanais aurait acheté sa parcelle contre sa volonté. Les Libanais, tout ça. Les affaires des syndicalistes. Un monsieur qui s'appelle Lubamba qui pourrait être jugé ce lundi contre M. Deorobiza. Les juges sont en train de faire des manipulations. Nos amis de la Marsabco, les juges manipulent des dossiers. C'est terrible. Nous vous aimons bien, on venez avec vous, mais vous aussi, pensez à la population comme la séparation de pouvoir, oui, mais pensez aussi au sort des comptes. Les juges ne sont pas toujours propres. Ça, c'est le résultat dans ce pays.
Merci Marie-Théodore Kipoulou. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant évoluant à Bandunduville, dans la province de Bandundu. Et comment vous comprenez l'attitude de ces deux syndicats qui tous ont les mêmes revendications, mais ils ont des approches différentes?
Ils peuvent avoir des approches différentes, mais de toutes les façons, ils ne sont pas différents. Vous comprendrez une chose, c'est que les magistrats, ou du moins le corps de la justice, ils ont des antécédents déjà difficiles dans le pays, commencé par les révocations, les mutations, etc., etc., leur salaire, tout ceci constitue des faits qui demandent que les magistrats vivent sur une certaine tension. Les magistrats sont des intellectuels, ce n'est pas des enfants de nuit, ce sont des intellectuels. Ils font le marketing, si vous permettez le mot, ils font le marketing pour mettre en avant-garde la population de suivre que la chose ne s'est pas comme cela, c'est-à-dire que le pouvoir judiciaire ne soit pas centré entre les mains d'un seul homme. Mais le drame qu'on vient de le dire, celui qui m'a précédé tout à l'heure, c'est que est-ce qu'on voit ce qui se passe? Peut-être voit-il une certaine voie les choses différemment. Mais voyez les choses à l'intérieur du pays, où il y a des gens qui sont en prison depuis combien d'années, des gens qui n'ont jamais été jugés. Alors, si tout ceci s'ajoute à ça, comprendre quelles difficultés nous avons à l'intérieur du pays. Je m'arrête là.
Merci, c'est la fin de cette émission. Willem Lungamba était à la technique, Alain Erung à la réalisation, assisté de Samuel Katiak, Kéline Kouté et Aimé Kamoua, sous la supervision de Martin Semoujangwe, devant le micro Guy Maté. Merci et excellent week-end et sur Radio Capi. Thank you.